Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Sommaire aujourd'hui, une émission spéciale FIFAM 2024, le Festival international du film d'Amiens, auquel nous avons décidé de consacrer deux émissions. La première aujourd'hui reviendra globalement sur le festival et puis sur la rétrospective afrofuturisme. On en parlera avec la programmatrice Meriem Rabhi, mais aussi avec le réalisateur Gilles Elie Dikozak. On commencera cette semaine à aborder aussi la rétrospective Vampire Corps Troublé avec Adrien Beau, qui est réalisateur du film Le Vourdalak. L'équipe de Culture Prohibée remercie Émilie Barbin et Isabelle Buron pour leur aide sur cette émission. Pour causer FIFAM, je suis accompagné d'un amiénois, hein, parce que Festival international du film d'Amiens, on va causer de tout ça avec un amiénois. Il s'appelle Thomas Roland. On l'appelle le loup-garou picard aussi dans nos contrées un peu isolées comme ça, nos contrées rurales, dans la province. Et chaque nuit de pleine lune, il rédige de sanglantes chroniques pour RCA. Bonjour Thomas.
Bonjour Gégé et bien évidemment bonjour à toutes.
Mon cher Thomas, alors nous sommes revenus cette année au FIFAM, alors le FIFAM, le Festival international du film d'Amiens, que l'on couvre depuis maintenant de nombreuses années dans notre émission. On est heureux de voir cette année, on peut le dire, le festival revenir un peu à cet ADN où on a un mélange à la fois de, on peut que ça veuille dire quelque chose, mais en tout cas de cinéma d'auteur, de cinéma de genre, et aussi d'ouverture sur le monde, et aussi par exemple sur les cinémas africains, sur les cinémas aussi d'Amérique latine. Tout cela est ce qui caractérisait vraiment ce festival et qu'on retrouve maintenant à nouveau, je trouve, hein, moi, et je trouve que cette année nous a été donné à voir une programmation particulièrement pertinente, intelligente, bien conçue. Alors, si on s'est beaucoup intéressé, aux sections parallèles, on a quand même, enfin surtout mon ami Thomas Roland, parce qu'il faut dire qu'on se partage le travail sur le festival. On n'a pas le don d'ubiquité encore. On n'a pas encore de super pouvoir avec Thomas. Et Thomas, toi, t'as assisté à la projection des films en compétition. Est-ce que tu peux nous donner comme ça tes coups de cœur de cette compétition, donc du FIFAM 2024?
Moi, j'ai beaucoup aimé Soleil à Tikamek, un film canadien qui relate un incident qui a eu lieu dans une communauté autochtone dans les années 70, qui est un incident qui a causé la mort quand même de 5 personnes. Accident pour lequel il n'y a eu ni autopsie, parce que ils sont censés avoir été noyés. Donc j'ai tendance à penser que quand les gens sont noyés, on fait des autopsies. Il n'y a plus d'autopsie, il n'y a pas eu d'enquête non plus. Et les deux personnes survivantes, c'est-à-dire deux blancs, n'ont pas été inquiétées. Encore aujourd'hui, je sais que l'enquête a été rouverte, parce que je me suis un peu renseigné. Je trouve ça tellement aberrant, le film m'a tellement interpellé, qu'il y a eu une enquête de rouverte, mais les gens ne sont toujours pas inquiétés. Les soupçons sont très forts par rapport à un meurtre. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, il y a eu beuverie, etc. Mais bon, il y a eu meurtre et possiblement viol aussi, hein. Et c'est un film assez étrange parce que c'est entre le documentaire et la fiction, avec une large part de fiction, une très belle reconstitution des années 70. Enfin, moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Dans les autres films que j'ai beaucoup aimé, il y a Le Fardeau, qui est un documentaire de la République centrafricaine, un documentaire de Elvis Sabin Ngebino, qui avait déjà fait un long métrage documentaire qui s'appelait Makongo, qui porte sur les pygmées qui élèvent des chenilles pour les revendre en ville, pour ensuite, avec l'argent qu'ils récoltent de la vente des chenilles, parce qu'on bouffe les chenilles là-bas, hein. L'argent qui récolte des chenilles, ils scolarisent leurs enfants. Ça leur permet de scolariser leurs enfants. Et donc, Le Fardeau, en fait, il suit un couple qui sont atteints tous les deux du sida et qui sont très pieux. Et lui, il veut devenir pasteur. Il veut absolument devenir pasteur. Donc, on les suit. Comment ils vivent la maladie et comment ils vivent leur foi aussi. Leur foi, ils pensent que cette foi va les aider à guérir. Donc c'est un film, c'est pas aussi misérabiliste qu'on pourra le croire comme ça, comme c'est dit. Et le film se termine d'une façon assez triste, c'est pas le bon terme, mais les personnages, bien sûr, évoluent tout au long du film. Et le film n'est pas aussi voyeur, misérabiliste qu'on pourrait le croire. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. C'est très âpre, c'est très dur quand même. C'est l'un des films que j'ai le plus aimé. Et aussi, surtout, le Grand Prix. Le Grand Prix a été donné à La Piel en Primavera de Yennifer Uribe Alzate. On suit Sandra, qui est une jeune femme qui vit seule, elle élève seule son enfant, qui vient de trouver un travail de vigile dans un grand centre commercial. Et puis elle va rencontrer un chauffeur de bus avec qui elle va vivre une histoire d'amour. Et cette femme, qui était quand même assez repliée sur elle-même, elle va se redécouvrir, elle va redécouvrir son corps, elle va redécouvrir sa sensualité. Je trouve que c'est un très beau film. C'est vraiment du cinéma, avec de très beaux plans ou des plans assez longs où elle suit vraiment ce personnage. Elle est quasiment tout le temps à l'écran. L'actrice, moi je la trouve superbe. Je trouve que c'est une superbe actrice. Elle dégage vraiment quelque chose. Et je trouve que c'est un très beau film sur la féminité. On la voit avec ses collègues de travail. Elle a une collègue de travail qui est femme de ménage et qui aussi, pour gagner un petit peu d'argent, revend des sextoys. C'est très drôle. Enfin, le film n'est pas très drôle, mais je veux dire, c'est incongru hein, comme détail dans le film. Mais et ça se passe, donc c'est un film, une coproduction entre la Colombie et le Chili. Et ça se passe dans les hauteurs de Medellín. Et je trouve que c'est effectivement un grand prix mérité pour ce film, La Piel en Primavera. Il y a aussi Coutez-Voix qui a aussi remporté un prix de Maxime Jean-Baptiste. Alors ça, c'est un documentaire qui se passe en Guyane française, à Cayenne, qui suit la mère d'un jeune homme qui a été tué dans une rixe. Apparemment, c'est un film sur la violence à Cayenne, sur la violence entre des gangs de jeunes à Cayenne. Donc on suit cette mère qui fait son chemin vers le pardon, vers la résilience, avec son petit-fils, qui n'a donc pas connu forcément son oncle, qui aussi va faire son chemin de pardon, de résilience. Et il y a aussi un troisième personnage qui est le meilleur ami de la victime, qui lui a beaucoup de mal à tourner la page.
Thomas, tu n'as pas fait que aller voir les films de la compétition, tu t'es aussi consacré à plusieurs rétrospectives et entre autres à une rétrospective qui s'appelait Afrofuturisme et futurisme africain. Alors, avant qu'on aille plus loin dans cette rétrospective, on va tout de suite écouter Myriam Rabhi, que tu as pu rencontrer, qui est programmatrice de cette section Afrofuturisme, et nous expliquer ce qu'est, donc Myriam Rabhi au micro de Culture Prohibée, qui nous explique ce qu'est l'afrofuturisme.
L'afrofuturisme, en fait, c'est un terme qui va apparaître tel quel, en tout cas en 93, il est pensé par Marc Derry, qui va dans un article « Black to the Future ». Donc c'est un homme blanc américain qui va, on va dire, poser le terme. Néanmoins, comme on peut le voir dans la programmation, on est sur des films aussi qui commencent dès les années 70, soit avec donc, « Space is a Place » de John Coney, qui est donc un film de 72, il me semble, qui va mettre en scène la figure donc, de Sun Ra, un artiste musical, avec qui a une esthétique et une direction, et on va dire qu'il va porter en s'inspirant notamment de l'Égypte ancienne. C'est quelque chose qu'on va beaucoup retrouver dans beaucoup d'œuvres. On va aussi, pour citer, on peut aussi citer par exemple Michael Jackson, qui va utiliser cette esthétique dans ses clips, qui vont mettre en scène le réalisme magique. L'afrofuturisme, c'est donc surtout, donc c'est une branche de la science-fiction, donc c'est-à-dire des récits de futurs plus ou moins proches, qui cette fois-ci, pour un peu proposer autre chose, en fait dire dans l'imaginaire collectif, la science-fiction est plutôt blanche, occidentale, et l'afrofuturisme vient répondre d'une autre manière, tant dans la représentation, c'est-à-dire que ce sont des récits afro-centrés, c'est dans l'idée aussi de valoriser et la culture, les identités noires à travers le monde, auprès de la diaspora, mais aussi au sein du continent africain. Dans un contexte global de racisme et de discrimination, d'impérialisme, de colonisation, mais aussi avec l'histoire de l'esclavage, c'est vraiment, on va dire, des récits qui viennent à la fois poser la question du temps, du paradoxe, et d'imaginer des futurs pour réparer, pour soigner, mais surtout pour créer. Et en ça, la création devient extrêmement politique.
Cette section afrofuturisme, Thomas, donc afrofuturisme et futurisme africain, a, je pense, pour toi été sans aucun doute l'occasion de découvrir des œuvres singulières.
J'ai découvert Sun Ra, que je ne connaissais pas, à travers le film Space is the Place, qui est un film de blaxploitation fauché, plutôt science-fiction, avec quelques blagues dedans, avec un scénario plutôt foutraque, mais c'est un film plutôt sympathique. Mais surtout, je retiens de cette section afro-futurisme, bon, il y avait Blade aussi, il y avait Nope, qui sont afro-futurisme si on veut, on est plus soit dans le fantastique ou de la science-fiction horrifique avec Nope. Il y avait aussi Neptune Frost, qui est un film qui est sorti en salle récemment. Un film, une coproduction entre les États-Unis et le Rwanda, par Saul Williams et Anisha Ouzeman, qui est une sorte de comédie musicale, futuriste. Enfin, c'est un peu fauché, mais c'est pas inintéressant. Mais surtout, je retiens un documentaire réalisé par Gilles-Élie Dicozac, qui est un photographe, un vidéaste, un réalisateur, documentariste. Et là, il a réalisé un film qui s'appelle « Zétoiles ». qui relate le destin de Robert Saint-Rose. Qui était Robert Saint-Rose? J'ai fait des recherches, il n'y a pas grand-chose sur lui, parce que son destin est quand même assez, assez intriguant. Robert Saint-Rose était un Martiniquais qui, après avoir vu les hommes marcher sur la Lune dans les années 70, il décide de, lui aussi de partir dans les étoiles. Il veut être le premier Martiniquais à poser le pied sur la Lune. Et là, et c'est là que ça devient un peu autre. Il demande à un de ses amis, qui est ferrailleur, de lui fabriquer une fusée. Donc, son ami ferrailleur, à partir d'éléments de voiture, de la casse, de bouts de bois, d'éléments électroniques, il fabrique une fusée. Et Robert Saint-Rose se renseigne pour savoir comment... comment décoller pour partir dans les étoiles. Alors, il interviewe un de ses anciens professeurs, et son ancien professeur, un jour qu'il en avait marre, lui dit: écoute, va lire Aimé Césaire et puis fous-moi la paix. Et là, Robert Saint-Rose a trouvé le truc. C'est pour faire décoller la fusée, eh ben, il va lire la poésie d'Aimé Césaire. Alors, c'est un film... Alors, quand on le voit, moi, je pense à Ed Wood de Tim Burton. Hein, on est dans ce genre de description de personnage rêveur qui croit vraiment en ce qu'il fait. On peut penser que c'est un dingue, mais je suis pas sûr qu'il était dingue. Je pense que c'est quelqu'un qui croyait vraiment en la force de la poésie, en la force... à son rêve, qui voulait vraiment concrétiser son rêve d'aller sur la Lune. Et c'est un destin assez étrange, parce qu'à la fin, bien sûr, évidemment, il convie ses amis à assister au décollage. Il y a plusieurs interviews, témoignages dans le film, notamment une ancienne petite amie, son frère, des scientifiques aussi. C'est vraiment un excellent documentaire. Et à la fin, Robert Saint-Rose disparaît, sa fusée aussi. Et donc, poussé par la curiosité, je me suis tourné vers Gileli Dikozak pour avoir quand même le fin mot de l'histoire, de cette histoire de ce destin étrange de Robert Saint-Rose qui voulait être le premier Martiniquais à aller sur la Lune.
Alors tout de suite, Gileli Dikozak, donc le réalisateur de Étoiles, au micro de Culture Prohibée. Alors je précise qu'il était au Sénégal et que la liaison était pas terrible. Donc on a fait ce qu'on a pu, mais on trouvait quand même nécessaire de laisser la parole au réalisateur de ce film si singulier.
Officiellement, il est porté disparu. Alors je sais qu'on me demande souvent, enfin, pas la question, qu'est-il devenu. J'ai pas voulu chercher plus parce que j'aime bien l'histoire ainsi. Voilà, en fait, on est dans ce qu'on appelle en fait le documentaire d'auteur. En fait, voilà, en fait, c'est pas une enquête journalistique. Et ben, je me suis dit, j'ai pas à chercher en tout cas plus, en fait, à creuser qui est devenu vraiment le personnage. Est-ce qu'il est vraiment parti? Je trouve que j'aime bien cette idée que si ça se trouve il est parti. En fait, voilà, j'écoute un petit peu les gens en fait lors des projections et puis lors d'hypothèses, etc. Et tout est bon, et voilà. Et je trouve que beaucoup de gens se disent finalement oui, il a pu décoller. J'aime bien cette idée.
La rétrospective qui était la plus fournie en film et en rencontre et en débat, parce qu'il y avait 21 films, 2 programmes, 9 rencontres, 4 débats. Enfin, il y avait plein de choses très intéressantes autour de cette rétrospective. C'est la rétrospective qui d'ailleurs a donné lieu à la très belle affiche du festival, affiche de Léa Bozier, un magnifique travail de sérigraphie. C'est la rétrospective Vampire Corps Troublé, corps au singulier. Et alors, c'est pas aujourd'hui qu'on va développer sur cette rétrospective, on vous en parlera plus dans la prochaine émission, mais aujourd'hui, on a décidé de sortir de cette programmation Un film qu'on aime beaucoup, un film français, une fois n'est pas coutume, on ne le dira jamais assez, on l'a dit assez souvent dans nos émissions récemment, le cinéma fantastique aujourd'hui le plus attrayant, le plus stimulant aujourd'hui, franchement on peut dire qu'il se fait en France. Et là on a pu rencontrer Adrien Beau, qui est le réalisateur du film Le Vourdalak. Alors le Vourdalak, c'est simple, on est au Moyen-Âge, en Transylvanie, il y a un jeune noble poudré qui est perdu comme ça en plein milieu de la nuit. Il finit par trouver refuge dans une famille un peu étrange qui attend le retour du vieux Gorcha. C'est un secret de Polichinelle, le retour du Vourdalak. Là dans ce film hors du temps, comme ça, ce personnage va tomber amoureux de la fille de Gorcha. Mais Gorcha va revenir et Gorcha va se révéler être le personnage maléfique qu'on attendait de lui. En plus, c'est une marionnette, parce qu'on doit découvrir dans l'interview, Adrien Beau est marionnettiste, donc ça donne un cachet particulier à ce film hors du temps, dans des décors sublimes, qui est un film, donc je dis tout, depuis le début, il est hors du temps, parce qu'il y a ce côté chanté, chanson de Roland, il y a plein de choses, mais en même temps, il est très dans son époque, parce qu'en fin de compte, ce mec qui revient, c'est le vieux patriarche qui casse les couilles à tout le monde, il faut le dire comme ça, voilà. Et c'est en ça que le film est assez génial. Enfin, moi, j'ai trouvé ce film très beau, très réussi, j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup l'univers plastique du film, j'aime beaucoup sa mise en scène très élégante. Et d'ailleurs, je vous invite à aller sur YouTube voir les courts-métrages d'Adrien Beau, et en particulier La Petite Sirène, qui est plastiquement, qui est sur YouTube. Tapez La Petite Sirène, Adrien Beau, vous allez tomber dessus, qui est vraiment particulièrement réussi, très original, qui peut rappeler un peu le It Was the Red de David Lynch, qui serait mélangé avec le travail d'un Nick Park sous acide. Vous pouvez également voir son autre court-métrage, Les Condiments Irréguliers. Alors ça, c'est sur sa chaîne perso, à Adrien Beau. Ce film, on l'a beaucoup aimé. Et ce que je vous propose tout de suite, c'est d'écouter notre rencontre avec le réalisateur de ce film, donc le Vourdalak. Et ce réalisateur, c'est Adrien Beau. Donc Adrien Beau, au micro de Culture Prohibée.
Avant de parler du Vourdalak, j'ai vu que Adrien Beau avait une autre vie avant le Vourdalak, une vie dans la mode, une vie dans d'autres. Qu'est-ce qui fait qu'on passe comme ça des métiers de la mode au cinéma? Quel est le parcours, quoi,
en gros? En fait, j'ai toujours fait des courts-métrages. Alors certains qu'on ne peut pas voir, et tant mieux. Et puis d'autres qui ont eu une petite vie en festival, enfin qui ont une vie habituelle de court-métrage. Et puis du théâtre, en fait, à la base, je dessinais quand j'étais gamin et adolescent. Et puis je faisais du théâtre aussi. Et puis c'est vrai que entre les deux, les marionnettes, c'est une manière de jouer en se cachant. Et puis, enfin voilà, c'est-à-dire que trouver des terrains où on peut faire les deux, c'est rare. Et c'est pour ça que j'ai fait mon premier court-métrage à 43 ans, mais il paraît que c'est jeune pour un réalisateur, donc c'est le seul métier au monde où c'est jeune 43 ans, donc je suis content. Ouais.
Et l'appétence pour le fantastique, parce que là on est clairement dans un univers fantastique,
oui.
Et il y a eu deux courts-métrages avant qui étaient aussi en lien avec le fantastique, oui. La Petite Sirène et puis Les Condiments Irréguliers,
oui.
On est déjà dans des univers fantastiques, fantasmagoriques.
Oui, j'ai toujours aimé les monstres, moi j'ai toujours adoré... J'ai toujours adoré ça, le fantastique, l'horreur, tout simplement. Et puis là, c'est l'adaptation aussi d'une nouvelle, en fait. Et j'adorais les nouvelles de Lovecraft et d'Edgar Poe et tout ça quand j'étais adolescent. Et du coup, quand la productrice Judith Levy m'a demandé si je voulais faire un film de vampire avec elle, et ben j'ai tout de suite pensé à cette nouvelle-là, parce que c'est un vampire un peu différent de l'archétype... du mec aristocrate dans son château, hyper glamour et tout, comme Dracula ou beaucoup d'autres ensuite. Là, c'est vraiment n'importe qui, c'est un vieux paysan au milieu de nulle part. Et c'est beaucoup plus flippant, en vrai, parce que ça peut venir de n'importe où, en fait. Et voilà. Puis il y a cette histoire aussi, évidemment, de la famille, de la cellule familiale traditionnelle que j'aimais bien faire voler en éclats, parce qu'en fait, j'aime bien cette histoire de famille très classique qui en fait est complètement dysfonctionnelle, et finalement le fait que le grand-père soit un vampire, c'est presque secondaire, tellement ils sont tous tarés, tellement c'est l'horreur, en fait.
Oui, parce qu'il y a un côté presque second degré dans le film, en fait. Il y a un côté, c'est horrifique, mais aussi un côté drôle.
Oui, mais ça c'est assez évident. Je trouve que c'est la vie, en fait. La vie, c'est quelquefois drôle et c'est souvent horrible, mais c'est la vie, quoi. Ça, c'est vrai que séparer les genres, bah, dans ce cas, ça ressemble pas à la vie. Il en manque une partie. Ouais.
Et dans le Vourdalak, quand on dit le Vourdalak, alors on pense forcément aux trois visages de la peur.
Hein, bah, bien sûr. Ouais.
Ça, c'est vraiment une influence majeure.
Bah, alors pas du tout. En tout cas, pas ça, parce que sinon, ça m'aurait vraiment bloqué, quoi, en fait, si je l'avais vu avant. Et c'est une fois qu'on a terminé d'écrire le scénario, qu'avec Adrien Bouvier, qui est le co-auteur du scénario, on a regardé La Nuit des Diables de Ferroni, je crois que c'est
Giorgio Ferroni.
Voilà. Et puis évidemment, Les Trois Visages de la Peur de Mario Bava. C'est magnifique, mais c'est très daté. Nous, ça ressemble aux années 60, mais c'est pas les années 60 dans les thèmes qu'on utilise. Et là, c'est vrai que quand même, bon, Zdenka, blonde avec l'eyeliner et sa poitrine, et qui est vraiment une qui est vraiment une pauvre fille, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un peu, enfin, je veux pas dire du mal de Mario Bava, mais j'imagine que ce serait malhonnête de ma part de dire que je préfère pas mon film, parce que voilà.
Bah, après, il y a aussi un côté, je pense aussi à Vige, à un certain fantastique des pays de l'Est, tout ça.
Ouais, bah, ça évidemment.
Ouais.
Bah, en fait, c'est une espèce de d'est fantasmé, en fait. En fait, la nouvelle, elle a été écrite par ce mec donc qui est le cousin du grand Tolstoï, quoi, Guérépé, là, mais qui lui du coup était russe, et il a écrit la nouvelle en français parce qu'il était diplomate et qu'il parlait très bien français, à propos d'un pays où il avait certainement jamais foutu les pieds, qui est la Serbie, enfin qui à l'époque était la Serbie, mais maintenant les frontières ont changé, ce que dans les années 90, en 95 exactement. Oui, donc c'est vraiment déjà, à l'époque, un truc d'opérette, quoi. C'est pas un vrai pays, quoi. Et d'ailleurs, aujourd'hui, avec toutes ces histoires d'appropriation culturelle, enfin, avec le monde tel qu'il devient, et c'est bien, mais ça aurait été très compliqué d'aller faire des recherches précises sur un lieu précis, de le nommer et d'habiller les gens comme ils étaient habillés à l'époque et d'injecter là-dedans des vampires. Alors ça, c'est complètement absurde, parce que les vampires n'existaient pas. Ça, il faut quand même le savoir.
Non, ils n'existaient pas, alors.
Bon, et non.
Il y a aussi un petit côté, alors je ne sais pas si c'est voulu, pas voulu, c'est peut-être moi qui fantasme ça, hein. Jean Rollin, en fait.
C'est pareil, Jean Rollin, je ne le connaissais pas avant. Et alors moi, beaucoup plus prétentieux, en fait, j'essayais de ressembler un petit peu à Médée de Pasolini, mais non, et en fait, effectivement, ça ressemble, au final, vous ressemblez à Pasolini, je ressemble à Jean Rollin, ce qui est très différent, mais bon, bah, on fait ce qu'on peut, en tout cas.
Oui, il y a une mystique aussi chez Pasolini.
Ah bah ouais, bien sûr.
Voilà, oui. On va retrouver aussi parfois...
Et puis même Fellini aussi, que j'adore, avec la distance, en fait, avec les personnages qui sont des caricatures, en fait. Il était caricaturiste, à la base, Fellini. Il dessinait sur les plages les gens pour se faire de la thune l'été. Et alors, bon, ça, c'est un truc très français, des acteurs qui disent « Oui, j'ai pas voulu aller jusque-là parce que ça aurait été tombé dans la caricature. » Mais il faut beaucoup de talent et de regard pour arriver à faire des caricatures qui, en trois lignes, représente quelque chose que tout le monde comprend, en fait. Mmh. Et ça m'intéressait beaucoup avec les acteurs, de voir comment ils pouvaient être une moustache, une balafre sur l'œil et un pistolet, et on sait qui c'est, ce mec, quoi. On sait très bien qui c'est. On le connaît tous, on a tous un oncle comme ça. Donc, ouais, bon, voilà, c'était pour... C'est la famille... D'ailleurs, la nouvelle s'appelle pas le Vourdalak, hein, la nouvelle s'appelle La Famille du Vourdalak. Ouais. Du coup, c'est bien. Il y a bien l'idée quand même que la famille est aussi flippante finalement que le Vourdalak lui-même, en fait. Et voilà.
Mais c'est aussi l'histoire, pour être un peu trivial, du vieux qui revient nous emmerder.
Bah exactement. Ouais, ouais. Mmh, oui, c'est le patriarcat. C'est-à-dire que c'est le vieux qu'on pense avoir tué toute chaque génération, mais qui revient toujours, en fait, et qui revient d'entre les morts pour dévorer ses enfants, quoi. C'est le dictateur, c'est l'extrême droite, c'est Donald Trump, c'est ce qu'on veut, quoi, mais on le connaît.
Oui, on met toutes les figures...
Qu'on veut, ouais.
On parlait de Fellini à l'instant, il y a aussi un côté... Bon, ça se retrouve aussi dans la musique, je trouve...
Oui.
C'est volontaire, c'est...
Oui, c'est mon frère qui a composé la musique, c'est mon frère et sa copine, tous les deux ensemble. D'accord. Et elle a été écrite, enfin, comme vous avez vu dans le film, il y a des séquences où ils chantent, en fait, et donc du coup, elle devait être composée avant qu'on tourne, puisque sinon, ça marche pas, quoi. Mais elle a continué, elle a été réécrite et réécrite tout du long. Et c'est comme à l'époque, ils sont toujours étudiants au CNSM, en fait. Du coup, on a eu accès à beaucoup d'instruments et à beaucoup de. Enfin, c'est une vraie musique presque orchestrale, quoi. Enfin, c'est pas une très grosse formation, mais oui, c'est un petit orchestre, quoi.
Oui, composé donc avec des instruments
anciens, avec du clavecin, du théorbe, des instruments qui sonnent déjà comme un autre monde, enfin un monde mort. Ce qui va aussi avec la pellicule, en fait. C'est qu'aujourd'hui, avec le numérique, on a l'impression que quand on voit de la pellicule, que les gens qui ont participé sont morts depuis 30 ans, en fait. Et du coup, ça, C'était aussi un peu l'idée de faire un fantôme de film, quoi, avec cette marionnette. Aujourd'hui, tout est fait en effets spéciaux numériques. Et ce qui est paradoxalement moins cher et moins chiant qu'une marionnette, en fait.
Maintenant, et, oui.
Ah ouais, c'est très compliqué, la marionnette.
Parce que c'est tourné en 16 mm.
Oui, c'est ça que je voulais dire. C'est ça que je voulais dire, oui. Je n'ai pas fini. En fait, je sors d'une autre interview, donc je ne sais plus ce que j'ai dit, ce que je n'ai pas dit. Et voilà, je n'ai pas l'habitude de parler tant. Mais oui, le 16 mm, ça donne cette image qui est un peu magique, en fait. En pellicule, on peut faire croire qu'une matière est une autre. On peut peindre du carton et faire croire que c'est du métal, par exemple. Avec le numérique aujourd'hui, ça, c'est impossible. Si tu veux, ça témoigne tellement précisément du réel, le numérique, qu'en fait, tout devient un sitcom, quoi. C'est terrible, c'est affreux. Et la pellicule, ça met une distance qui me plaît énormément, qui est la même qu'on a mis dans les dialogues. Quand on montait, par exemple, le film avec Alan, le monteur, on était chez Vivendi et à côté de nous, il y avait un autre film qui se montait et on entendait les dialogues de l'autre film parce que les murs sont en papier à cigarette, quoi. Et les dialogues, c'était, on se souvient d'une phrase qui est restée une blague entre nous, où c'est un mec qui disait « Je lui envoie un texto, il m'a jamais répondu. » Et on se disait « Non, on n'a pas dit tout ça comme dialogue dans notre film, quoi. » Nous, on a des trucs genre « Va, petit oiseau, va dire à la falaise d'ouvrir ses bras hospitaliers. Je me jetterai dans ses bras, je sais pas quoi, pour la fille qui est suicidée. » Enfin, oui, moi c'est ça qui me plaisait, on parlait de Fellini, de la distance et des années 60 et des personnages archétypaux et l'idée, j'ai pas besoin d'y croire quoi. Pour ça il y a l'intelligence artificielle qui arrive, hein, pour nous faire des choses tellement plus réelles que le réel et gratos, donc c'est fou. Donc ça veut dire que tous nos métiers vont finir à la poubelle, mais non, c'est pas vrai ça, parce qu'en fait c'est pas la perfection qui compte, ce qui compte c'est l'intention et puis de voir comment les choses sont faites par des artistes qui travaillent avec leurs mains, ou avec leur tête, ou avec leur instrument de musique, en l'occurrence. Oui, c'est ça n'a pas du tout été fait dans cette optique de résistance, pas du tout, parce que je m'en fous beaucoup de l'intelligence artificielle. Mais quand le film est sorti aux États-Unis il y a quelques mois, en juin, là, ça a beaucoup plus marché qu'en France, ça a beaucoup pris, et j'ai été là-bas pour le présenter à travers tout le pays. Et on a eu beaucoup de presse, incroyable, et c'est ce thème qui revient tout le temps, en fait. Les gens, parce que ça fait très très peur aux artistes, l'arrivée de l'intelligence artificielle, en fait, c'est terrible, quoi. Il y a un mec qui m'a dit, c'est de la science-fiction, en fait, et quand les robots arrivent, leurs premières victimes sont les artistes, c'est dément, quoi. Et c'est ça.
Mais ouais. Pourtant, on parlait de Fellini tout à l'heure.
Ah ben là, il n'y avait pas d'intelligence artificielle.
Voilà, quand je vois Casanova, quand je vois la mer...
Avec des sacs poubelles,
c'est incroyable.
Mais c'est magnifique.
Et on y croit.
Oui, on y croit d'une certaine manière. On y croit avec distance. On y croit comme au théâtre, si tu veux. Au théâtre, on sait très bien qu'on est au théâtre, et pourtant, on se dit pas, oh, ben, j'y crois pas. Non, c'est pas ça la question, quoi. La quête de réalisme, bon, elle est un peu finie maintenant qu'on disait l'intelligence artificielle. C'est comme quand la photo est arrivée pour la peinture, tu vois. Les peintres, certains se sont suicidés en disant, bon, on ne sert plus à rien. Et puis, tu en as d'autres qui ont dit, ben non, c'est maintenant que la peinture justement existe, en fait. Et c'est comme ça qu'on a eu après tout le cubisme et Picasso et toute la peinture, quoi.
Écoutez le réalisateur Adrien Beau au micro de Culture Prouille.
Voilà le fruit de notre négligence,
On parlait de photographie à l'instant. Moi, je trouve la photo du film très belle. Mmh. Et justement, on parlait tout à l'heure aussi des instruments de musique qui ont été utilisés. Là, on a l'impression que pour la photo, il y a un petit côté Barry Lyndon. On a l'impression que c'est de la lumière naturelle. Qu'il y a beaucoup
Il y a beaucoup d'extérieurs. Donc, les extérieurs, c'est toujours en lumière naturelle. Ce qui était hyper compliqué parce que comme on tournait en novembre-décembre, la durée de la journée, c'est pas longtemps, quoi. Il fait nuit très tard et le soleil se couche très tôt. Donc on était obligé de tout resserrer. Et les trucs, enfin, le truc marrant, c'est que toutes les nuits sont des nuits américaines. En fait, on a tourné de jour et ensuite on a passé des filtres à l'étalonnage, en bleu surtout, pour que ça fasse un effet nuit. Mais comme on avait très très peu de... Quelquefois, on a été obligé de rééclairer de la vraie nuit en jour pour pouvoir ensuite la faire... Enfin bon, c'était la nuit pour le jour, pour la nuit. Enfin bon... Une prise de tête terrible.
Mais ça se voit pas hein, à l'écran. Ouais. Parce que souvent, les nuits américaines, c'est souvent moche. Ouais, quand même, ouais. Et là, ça se voit pas quand même.
Bah ouais. Là, j'ai l'impression que. Non, mais c'est un grand travail d'étalonnage aussi qui a été fait. Ouais, ouais. Isabelle Julien, qui est une grande étalonneuse, qui est super.
Et, justement, un film comme ça, ça se construit. Ça se tourne sur combien de temps ça...
5 semaines. 5 semaines de tournage, tous les jours, sauf le week-end, en Aveyron, du coup, à côté de Rodez. Dans la forêt, et dans un prieuré du XIe siècle qui servait de maison, en fait. Il y a un escalier dans le film, alors ils montent l'escalier, ils le descendent par moment, mais en fait, il n'y a pas d'étage, c'est un faux escalier. Donc, il y a un petit rideau, et en fait, passé un certain moment, ils sont obligés de se plier comme ça, pour faire semblant de monter, donc c'était vraiment bricolé, quoi. Mais ça marche, je crois.
Ouais. Ah oui, ça marche complètement. On parlait aussi tout à l'heure... de l'aspect chanté, parce qu'à un moment, dans le film, il y a des moments chantés.
Oui, c'est Zdenka qui chante.
Est-ce qu'il y a un côté complet de Mondrain, tout ça? Est-ce qu'il y avait à un moment, il y a eu la tentation peut-être de mettre plus de chant
En fait, c'est arrivé assez tard, ça, dans l'écriture. C'est pour son personnage à elle, en fait. On lui a donné, tu parlais de la version de Mario Bava, par exemple. Alors, bon, je sais que je suis perdant si on compare. Il n'y a pas de doute, mais c'est vrai que nous, on a développé ce personnage-là, en fait. Dans toutes les versions, et puis même dans le texte à la base, le mec, il arrive, il vient d'ailleurs, il vient de la ville, il est riche, et il est beau, et eux, ils sont des paysans, et la fille, elle tombe immédiatement amoureuse de lui, et lui, il est courageux en plus, et tout. Et on a trouvé ça tellement débile, en fait, à notre époque, de lire ça, tu vois, qu'on a fait du mec vraiment un mec pathétique, quoi, et ridicule, qui se maquille à fond avec sa perruque et tout, et ses talons. Et elle, on lui a donné un peu la parole quand même, parce que c'était compliqué ça, l'écriture, parce qu'en vrai, si jamais elle était si forte, elle se serait barrée depuis le début, en fait. Donc du coup, il fallait lui trouver une raison de rester. Donc voilà, ça c'est des trucs d'écriture, en fait. Mais c'était surtout à l'écriture qu'on s'est éloigné de la nouvelle de base, quoi.
Et Cassé Motéclin qui fait justement ce marquis-là. Oui, effectivement, c'est une sorte de noble poudré, quoi.
Ouais, c'est ça.
C'est la caricature du noble.
C'est ça. Mm. Oui, parce que j'imagine bien qu'au 18e, quand même les gens de la noblesse, quand ils partaient en voyage, ils n'amenaient pas leur poudre et leur dentelle, quoi. Mm. Mais bon, comme je disais, c'est-à-dire que c'est un peu au costume. On a dessiné les personnages beaucoup. J'avais fait plein de dessins des personnages pour comme dans une bande dessinée où ils portent rien que dans leur silhouette tout leur caractère déjà, quoi. Et ensuite on nuance. Avec le jeu. Mais oui, ça me plaisait qu'il soit... En fait, il y a aussi ce truc que quelqu'un m'a dit et qui m'a fait plaisir, c'est qu'en fait, on a tous à l'intérieur de nous un mec pathétique, vantard, ridicule. Quelquefois, quand on va revoir des cousins qu'on n'a pas vus depuis longtemps, des trucs comme ça, on se la raconte et on est pathétique, quoi. Et on est ce type-là. Mais on a tous aussi, au fond de nous, et surtout les gens qui s'intéressent à ça, un adolescent ou une adolescente, en l'occurrence... blessé et qui veut mourir seul dans les bois et qui a un contact très particulier avec la nature, tu vois. Et du coup, de faire se rencontrer ces deux caricatures-là, ça a donné une histoire d'amour que je trouve intéressante à montrer. Alors, tout ça avec un vampire au-dessus, quoi. Mais,
parce qu'il est presque touchant quand même, au final.
Le vampire
Non, pas le vampire, ah, le Cassé Motéclin,
Il faut qu'il se rachète quand même. J'espère qu'il devient plus sympathique après, quoi. C'est son arc, quoi. C'est son parcours, en fait. C'est le parcours de... Puis sacrifice, bon, c'est... Oui, il commence comme un gros con, et puis il finit un peu mieux, voilà, j'espère. Ouais.
Non, et puis, il y a aussi, comment dire, Dans le film, il y a aussi Ariane Labette, j'aime beaucoup.
C'est elle.
Très, très ensorceleuse, très.
Ouais, ouais.
Et alors, comment elle se dirige? Parce qu'elle elle joue énormément avec son corps.
Ouais,
avec,
ouais.
Elle a une grande sensualité qui se dégage de cette femme.
Enfin, elle, elle est danseuse à la base. Hein. Elle le répète à tort à travers qu'elle n'est pas actrice, qu'elle est danseuse. Bon. Et du coup, c'était. En fait, en vrai, c'est hyper pratique pour quelqu'un comme moi qui. Parce que moi, j'étais là avec ma marionnette à la peindre entre les prises, et elle faisait ses exercices, elle lève les bras et la jambe, et on parle de choses hyper concrètes, quoi. Avec d'autres acteurs, c'est beaucoup plus psychologique et c'est un peu moins agréable et concret, quoi, qu'avec elle. Elle, on est vraiment resté super potes depuis ce film. Ouais, ouais.
Et il y a une super scène, enfin, c'est une danseuse, d'accord, mais il y a une très belle scène de danse dans le film. Je pense même que c'est un peu l'acmé du film en termes plastiques, c'est sublime. Ouais. Et alors, est-ce que ça a été facile à tourner? Parce que tout à l'heure, on parlait de la lumière, des peu de moments de luminosité suffisants dans la journée.
En fait, c'est un plan séquence. Donc, c'est une chorégraphie qu'elle a apprise avec Fabio Bello, qui est le chorégraphe, et qu'elle a apprise et qu'elle a fait à chaque fois de A à Z. Quoi. Donc, c'était des prises très longues et on en a fait 9. Elle a fait 9. Et puis plus ça allait, plus elle était épuisée, mais elle est très professionnelle, c'est une vraie danseuse, c'est-à-dire qu'elle fait des trucs, elle fait moins 4, et elle y va, quoi. Et ensuite, on a coupé quand même au montage, mais pas pour enlever des moments, mais simplement parce qu'il fallait le contre-champ sur le vampire qui la regarde et qui réagit, quoi. Et donc du coup, on a pris, je crois, la première et la toute dernière où elle est épuisée et elle se casse la gueule à un moment. Et en fait, j'ai gardé ce moment-là. Et quand elle a vu le film, elle a dit « Mais pourquoi t'as gardé le moment où je me casse la gueule ?» Et finalement, elle a compris que ça marchait avec le personnage. Donc il y a un moment où elle tombe, mais c'est pas volontaire. C'est un accident, en fait.
D'accord, ouais. C'est un accident gardé.
Ouais.
C'est ce qui lui confère en plus ce côté... parce qu'au début, elle a un côté... Elle est très distante et puis...
Elle devient la plus
touchante. De toute cette bande, c'est la plus touchante.
Bah, je pense, ouais, c'est celle qu'on... Ouais. C'est avec elle qu'on s'en va à la fin, enfin, je crois. Enfin, il ne faut peut-être pas le dire, ça, je ne sais pas. Merde, tant pis. Bon, ben voilà. Ouais.
Après, il y a aussi... On en a beaucoup parlé depuis tout à l'heure, mais on n'a pas développé. Oui, il y a ce fameux Vourdalak, donc ça, c'est une création personnelle, cette marionnette... Ouais. Qui se rapproche un peu du Max Schreck, enfin du Nosferatu, de Murnau, physiquement.
Bon, il est chauve et il est gris. C'est un archétype de vampire. Quoi, ouais. Mais du coup, ça a l'air horrible ce que je vais dire, je ne sais pas s'il faut que je le dise, mais c'est la vérité, c'est que ma mère était très malade pendant des années, et pendant l'écriture du film, qui a duré 2 ans, hein, l'écriture, elle est décédée, en fait. Avec mon frère, quand on l'a vue morte, en fait, on s'est dit, mais c'est marrant, parce que c'est pas elle, en vrai. Enfin, on était avec elle la veille, et puis bon. Mais le moment de la mort, les gens deviennent plus... C'est plus qu'un objet, en fait. Quand la vie s'en va, le corps, il devient un objet. Et du coup, je me suis dit, mais c'est ça, en fait, qui dérange dans la mort, en fait. Et je me suis dit que c'était vraiment l'occasion. En plus, comme je suis marionnettiste, c'est vrai que l'idée était un peu autour, déjà, mais pas à ce point. Et c'est là que je me suis dit, si, il faut y aller complètement. Il faut vraiment que ce soit une marionnette et qu'on voit et que ça soit gênant, en fait. Et de là a découlé tout le reste, en fait. De là a découlé... Il y avait déjà cette distance plus ou moins dans les dialogues, mais on les a encore plus mis lointains. On a mis de la pellicule, enfin, on a utilisé de la pellicule pour que ça ait l'air encore plus bizarre. Et il y a ce mec, Phil Tippett, qui est un grand marionnette, tu vois qui c'est, ouais. Et qui dit... à propos des marionnettes, qui dit, à propos des CGI, là, les effets numériques, qui dit en anglais, il dit « It looks real, but it feels fake ». Et les marionnettes, « It looks fake, but it feels weird ». Et voilà. Et ça, c'est le plus important, c'est que ça a l'air bizarre, quoi. Et alors, que ce soit réaliste ou pas, on en parlait tout à l'heure, l'intelligence artificielle fera ça mieux que moi, c'est très bien, bravo, allez-y, c'est moi qui vous en empêcherai. Mais nous, on avait cette idée que ce soit un objet qu'on puisse toucher, quoi, et qui est ridicule, on le montre directement 2 jours en entier frontal la première fois. Enfin, un petit striptease plus ou moins au début, mais finalement on le montre, quoi. Parce qu'après, on s'est dit, attends, faisons confiance au scénario, en fait. Il fait pas peur quand on le voit parce qu'on comprend ce que c'est, mais il est tellement sadique et tellement horrible qu'il fera peur d'une manière ou d'une autre. En tout cas, il dérangera. Et je crois que ça marche, ça, qu'il dérange beaucoup à la fin et qu'il est vraiment dégueulasse. Ouais, ouais. Tout le sang du film est vrai, il n'y a pas de projection. Numérique, ça c'est vraiment une aberration de dire ça. Enfin, c'est le plus marrant au cinéma, donc pourquoi le laisser faire à des employés de bureau devant l'ordinateur, quoi. Il faut qu'on fasse nous-mêmes, quoi.
comienza algunos estribardes grimaveros. Radia de fuego en el actricio.
¡Oye! C'est vrai, le film ne lésine pas.
Sur le sang.
Sur le sang, sur le gore.
Ouais,
au bout d'un moment. C'est pas un film gore où ça s'est tout le temps, mais quand il y en a besoin, c'est très présent.
Mais en fait, pas tant que ça, mais en fait, c'est des questions de structure aussi. C'est comme quand on écrivait avec la productrice, on parlait beaucoup de la structure de L'Exorciste, par exemple, où tout le début du film est vraiment une espèce de découverte psychologique presque chiante, en fait, de personnages dans leur vie, une actrice qui arrive pas, qui a pas de temps pour s'occuper de sa fille et qui du coup est déprimée, ce prêtre qui a pas assez d'argent pour mettre sa mère dans une belle maison de retraite, et on les suit dans leurs problèmes de vie. Et ensuite, quand ça commence vraiment avec Jésus te baise et le vomi vert et compagnie, c'est horrible du coup. Mais si ça avait commencé dès le début avec le vomi vert, on aurait ri en fait. C'est une construction qui permet en fait, quand tu connais les gens, de les voir mourir, c'est terrible. Et alors que de commencer comme on fait aujourd'hui des films américains où ça commence par une scène d'horreur et puis après on tue la blonde, puis le mec, puis machin. Enfin, toutes les 10 minutes une scène d'horreur, bah, le film finit, tu t'en fous en fait. Hein. Et voilà, ça c'était notre idée. Ce qu'on essayait de faire, c'est de rendre les personnages plus ou moins attachants, en tout cas que leur mort ait un sens. Parce que l'horreur, c'est pas forcément le gore. Hein. L'horreur, c'est le spectacle de la mort, oui, mais la mort, ce qu'il y a de pire, c'est le deuil, hein, bien plus que le gore, en fait. Et ça, c'est vraiment ce qu'on n'a pas envie de vivre. Hein. Parce que le gore, bien sûr, on n'a pas envie de le vivre, mais le deuil de quelqu'un qu'on connaît, c'est terrible, en fait. Et donc, du coup, bah, c'est un peu ça qui se passe dans cette famille. C'est-à-dire qu'on a l'enfant, la mère, enfin, c'est, voilà. C'est... Du coup, ouais, ça tire un peu dans tous les sens, j'ai l'impression, mais bon, ça a l'air de marcher pour certaines personnes, donc... Ouais. Parce qu'on parlait tout à l'heure du fait que c'était drôle, et là, je suis en train de dire que c'est horrible, mais bon, bah, il y a...
Non, justement, il y a cet équilibre, et puis effectivement, pour avoir mal à nos âges, malheureusement, on a tous connu la perte d'un proche,
ou bien sûr.
Et des gens malades, même parfois des gens malades qu'on ne reconnaît pas, parce que c'est même plus la même voix.
Ah bah bien sûr, ouais.
Elle respire plus de la même manière, c'est des sensations très étranges.
Ah, ouais.
Avec l'impression d'être face à un étranger, alors que...
C'est la personne.
C'est la personne, et c'est un peu pareil, je pense, pour cette famille. Ils ont bien conscience d'être face à un étranger, en particulier, je pense à la belle-fille. Ils ont bien conscience d'être face à un étranger, mais en même temps, c'est aussi lui sans l'être.
Bah c'est le poids de ouais, c'est ça, quand tu parlais du patriarcat, de l'obéissance aveugle à l'autorité, quoi. Et ils sont jamais élevés contre leur père, qui a l'air d'être une ordure, même bien avant d'être un vampire, il était déjà une ordure. Et du coup, ils obéissent, enfin surtout Yegor, le chef de famille, qui obéit aveuglément et qui du coup condamne tout le monde. Voilà. Et c'est... Oui, le petit éventail dans lequel on peut soit fuir, soit réagir, en fait, c'est très très compliqué, en fait. Et ces gens-là, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils connaissent, et c'est tragique, voilà.
C'est tragique et drôle, et le film a un côté fascinant aussi, du fait de cette marionnette. Par moments, il y a des fonds noirs aussi, tout ça, si ma mémoire est bonne.
Ouais.
Du coup, ça confère une atmosphère... Le film a vraiment une atmosphère singulière.
Oui.
Voilà. Donc, moi qui m'a beaucoup plu, hein, c'est personnel. Et j'aime beaucoup le fantastique français d'aujourd'hui parce qu'il essaye plus de faire de films fantastiques comme les Américains.
Ouais.
Et j'aime beaucoup, je trouve qu'on a atteint une maturité aujourd'hui dans le fantastique français.
Oui, ça c'est sûr. En tout cas, c'est certain que le fantastique américain d'aujourd'hui, bah, ça, c'est quoi? C'est les super-héros, les trucs comme ça, c'est pas...
C'est plus très intéressant.
Bah je vois pas, enfin oui, je
vous comprends. Ça a perdu son côté subversif
qu'il
pouvait y avoir chez des Carpenter ou chez des...
Oui.
Les Cronenberg.
Exactement.
Je parle du continent américain.
Ouais, bien sûr, ouais. Non, c'est certain. Moi, La Mouche, par exemple, c'est un film que j'adore. À la fin de La Mouche, je sais pas si tu te souviens, mais il y a cette espèce d'horrible marionnette en latex qui est vraiment hyper cheap. Et qui prend avec sa pince le fusil et qui le met contre son crâne en lui disant tue-moi, en fait, avec une musique déchirante, et elle tire sur cette espèce de truc dégueulasse, et c'est déchirant comme moment, en fait.
C'est Chris Wallace, d'ailleurs, je crois, qui fait les effets spéciaux.
Ah ouais, d'accord. Ouais. Mais alors que c'est vraiment le plus basique de... Mais l'émotion que ça véhicule, elle est beaucoup plus grande que quand je vois des trucs en 3D où la Terre explose. Enfin, on a déjà tout vu. Enfin, il y a quelqu'un qui m'a dit aux États-Unis, quand je montrais le film à une projection et à la fin je faisais les questions et les réponses, là, quelqu'un qui a dit, en fait, les effets spéciaux numériques, ça n'impressionne pas en fait. On a déjà été impressionné par Jurassic Park en 1992 ou je sais pas quoi, mais depuis, bon, bah, tout est possible du coup. Et paradoxalement, une chaussette avec des balles de ping-pong sur les yeux pour faire un personnage, là tout le monde se dit « Ah mais qu'est-ce que c'est ?» Et ils ont envie de toucher, ils peuvent toucher, ça existe en fait.
Et si on est impressionné aussi par Jurassic Park, c'est qu'on oublie de dire que derrière la caméra, un gars qui maîtrise le langage de la mise en scène comme personne.
Ah bah bien sûr, voilà, oui, bien sûr. Ça c'est des gros classiques de grands réalisateurs, bien sûr.
Et,
non mais je dis ça par rapport au fait que c'était très nouveau quand les événements...
Bien sûr, ah bah ils n'ont même pas été énormément dépassés en plus depuis en termes de qualité.
Bah c'est ça.
Parce qu'il y a un côté presque organique dans ce film-là qu'on ne retrouve pas du tout dans plein de films d'aujourd'hui. Bon, faut dire que c'est plus cheap et à mon avis, il y a aussi une concurrence qui s'est installée entre différents studios, visiblement, c'est compliqué aussi. j'ai envie de...
Mais quand tu disais que... Oui, quand on parlait de ça, en fait, moi, il y a beaucoup de gens très jeunes qui vont voir le film et qui m'écrivent sur Internet, sur Instagram ou qui ont mon mail. Beaucoup de gens très très jeunes qui sont nés après 1990 et qui ont toujours connu les effets numériques, en fait. Et qui, du coup... Ils se disent, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'on peut voir la manette? Est-ce que je peux la toucher? Est-ce que je peux venir le voir? Comment c'est fait? Parce qu'ils ne connaissent pas ça. C'est dément pour nous qui sommes plus âgés, quoi. Pour nous, c'était une vraie avancée, l'apparition des effets CGI. Mais pour eux, c'est normal et chiant, en fait. Du coup, c'est fou. Mon prochain film, je me bats pour que ce soit en noir et blanc. Parce que là, en noir et blanc, on accepte tout. Le public accepte tout. Tous les effets les plus bricolés, les plus... Ouais, on accepte tout en noir et blanc.
Et justement, bon, on ne peut pas te dire ce que ça va être le prochain film, mais est-ce qu'on sera encore dans le fantastique? Est-ce qu'il y aura encore des marionnettes?
Oui.
Ou est-ce que même il y aura possibilité d'un jour d'un film entièrement en marionnettes?
Alors ça, ce serait génial, mais c'est pas encore le cas. D'accord. Parce que ça demande beaucoup d'argent. Enfin, en tout cas, beaucoup plus que ce que j'ai.
Ouais.
Mais c'est aussi un film fantastique et ça se passe dans les années 20.
D'accord.
Et c'est pour ça que noir et blanc, ce serait logique, mais il faut l'expliquer à mes producteurs. Voilà.
Il y a un amour de la reconstitution, en tout cas.
En fait, ma vraie partenaire de travail, c'est Anne Blanchard, la costumière, que je connais depuis que j'ai 12 ans. Et on a toujours travaillé ensemble, on a fait du théâtre beaucoup, on a fait les courts-métrages dont tu parlais, et puis le Vourdalak aussi. Et c'est vrai que le costume, tu parlais de la mode, j'ai travaillé dans la mode. Moi, je me suis jamais intéressé à comment... Je vois même pas comment les gens sont habillés, ça m'intéresse pas du tout. Mais quand j'ai travaillé là, c'était par hasard, c'est parce que je dessinais, qu'on me demandait du coup de dessiner des animaux pour faire des imprimés ou des trucs comme ça. C'était, ou des décors pour le défilé ou des trucs. C'était beaucoup plus du théâtre que je faisais que de la mode. Mais du coup, je me suis rendu compte à quel point à quel point les vêtements, c'était des choses qu'on disait, en fait. Une manière de s'habiller, c'est la première chose que tu dis à quelqu'un avant même de lui parler, en fait. Et il n'y a qu'à voir en marchant dans la rue ce que disent les gens, en fait. Et c'est amusant, en fait. C'est vraiment de la sociologie, en fait. Et du coup, bon, faire des films avec des gens en t-shirt et en jean, comme moi, ou comme mes amis, ou comme tout le monde, bah, je trouve que c'est vraiment paresseux, en fait. Et du coup, ça m'amuse de faire des périodes différentes, ou du futur, ou du passé, parce qu'il y a quelque chose de visuel à inventer, à créer, quoi. Et qui raconte beaucoup, sans blabla, quoi. Voilà.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et Radio Graphite. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee, une émission animée avec Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine.